C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Ce vendredi, Dominique Volton, Lustiger, le pape, le grand interrogateur.
Attention, passez la première. Voilà.
Vous vous rendez compte que l'année dernière, 27 prêtres de mon diocèse ont quitté le sacerdoce pour se marier, 27.
Vous êtes au milieu de la rue, tenez votre droite.
Et ceux qui restent ont presque tous l'âge de la retraite.
À droite, j'ai dit.
Mais qu'est-ce qu'il fait, ce connard? Vous avez vu comment il conduit, lui?
Et si vous continuez, on va se faire casser la gueule, monseigneur.
Là, je prends à gauche?
Ici, à gauche.
À gauche.
Mettez votre clignotant au rétroviseur.
D'ailleurs, pourquoi il y a deux rétroviseurs?
C'est pour moi.
Pour vous?
Regardez dans celui-ci.
Ah oui.
Au moment où le cardinal Lustiger, 10 ans après sa mort, fait l'objet à Paris d'un colloque parfaitement académique, il est amusant de l'entendre tel qu'il a paru en 2013 dans un téléfilm en héros de fiction. On l'y voyait tour à tour en conducteur de voiture maladroit, en conducteur d'homme autoritaire, en juif converti, demeuré juif, cela s'appelait le métis de Dieu. C'était un film posthume. Le pape François, lui, a déjà fait l'objet d'un biopic de son vivant. Il a bien fallu qu'il donne son autorisation. Il ne regarde plus la télévision depuis qu'il en a fait le vœu à la Vierge, mais il sait que la communication a besoin de tous les langages pour tenter de faire passer ses messages dans nos cerveaux rétifs. C'est depuis longtemps le travail de Dominique Volton, sociologue, que d'emprunter tous les chemins comme toutes les impasses de la communication. C'est un homme aux multiples ressources. Il a, entre autres talents, celui de savoir conduire de grands entretiens dans un climat de confiance mutuelle. Il l'a fait en compagnie de Jean-Louis Missika ou bien seul, face à Raymond Aron ou à Jacques Delors, et aussi avec le cardinal Lustiger en 85-87, et cette fois, en 2016-2017, avec le pape soi-même. Ces entretiens ne veulent aucunement abolir la distinction entre la vie publique et la vie privée, mais ils peuvent amener à des confidences qui font sens. Ils tiennent de la conversation de naguère, celle que Goethe avait avec son ami Eckermann au XVIIIe siècle, mais ils appartiennent aussi au registre de la communication contemporaine, bien entendu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Dominique Volton, bonjour.
Bonjour.
Vous toussez parce que vous auriez préféré un autre titre, le grand interrogateur, ça vous va pas?
J'aurais préféré la maïeutique.
La maïeutique, oui. Maïeuticien.
Maïeuticien.
Ah oui.
Ben oui, c'est après tout ce que j'essaie de faire quand... Oui. Parce que c'est un dialogue où chacun se révèle en définitive et... Oui, parce que l'interrogation, c'est un peu dur. C'est pour ça que j'ai eu du
ça
mal.
Ça fait journaliste.
Oui. Non, enfin, oui, mais c'est normal, c'est le métier de journaliste. Moi, ce que j'essaie de restituer dans ce livre, c'est justement tous ces moments, tous ces rires, toutes ces répétitions, tous ces glissades de temps, tous les petits morceaux de langue de bois, il y en a eu très peu, et toutes ces associations qui n'étaient pas prévues, qui font que c'est un moment de communication, oui, plus proche de la maïeutique.
Mais évidemment, vous voulez parler du livre avec le pape François, qui vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire, maison poisson pilote d'un grand groupe financier. Moi, je voulais aussi vous ramener au long de cette émission un livre publié il y a 30 ans chez un éditeur plus expérimenté, indépendant, qui s'appelle toujours...
Grand éditeur.
Bernard de Fallois.
Très grand.
Il y a beaucoup de différences, on va les explorer, entre ces... deux entretiens à 30 ans de distance. Ça a été plus difficile de valider avec le pape, bien sûr, qu'avec le cardinal Lustiger.
Non, c'est l'inverse. En fait, j'ai eu plus de problèmes avec le cardinal Lustiger. Quand le livre était terminé, comme d'habitude, j'étais convenu qu'il le regarde et qu'il me dise ce qu'il en pensait. Si jamais il voulait qu'on fasse des coupes sur lequel on était d'accord. Et en fait, j'ai eu un blackout pas possible. J'étais convoqué
de la part de qui ?
Un évêque qui m'a convoqué, qui m'a dit, écoutez, le livre est formidable, mais le cardinal est beaucoup trop libre, et lui ne pourrait être public, mort du cardinal. Donc j'ai sauté au plafond, j'ai dit, écoutez, moi je suis pas un prêtre, je suis un scientifique universitaire. Et de fait, l'accès au cardinal a été bloqué pendant un an. Et j'ai réussi enfin, au bout d'un an, à reprendre contact avec lui, parce que toutes les portes étaient fermées. Ça, l'église, elle s'est fermée les portes. Hein. Et j'ai dit, écoutez, c'est inadmissible, vous n'avez pas le droit, on est co-auteur. Il a dit, bon, d'accord, donc je lui ai revourlisé, et finalement, on s'est mis d'accord, il y avait très très peu de coupes, simplement, c'était son entourage qui avait bloqué. Avec le pape François, c'était beaucoup plus simple, j'ai fait le travail seul avec lui, je n'ai eu affaire qu'à lui. Quand le manuscrit était terminé, je lui ai laissé, il m'a dit, vous pouvez revenir dans 2 mois, je lui ai dit, écoutez, non, c'est trop long, bon, d'accord, combien de temps, 3 semaines, d'accord. Il est revenu, et on a passé 2 heures tous les deux, page à page, et il a retiré très 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 peu de choses.
Il y a évidemment de grands passages biographiques dans vos entretiens avec François, moins importants peut-être que ceux consacrés dans Le choix de Dieu, les entretiens avec le cardinal Lustiger, à l'enfance de celui-ci. Il est né en 1926, dans une famille juive. Le passage au catholicisme a eu lieu en 1940, alors que commence la persécution, qu'il ne vivra jamais comme une dissimulation, mais comme une conversion radicale.
Et quel genre d'enfant étiez-vous?
J'en sais rien, tant que je sache.
Et si, par rapport à vos copains?
En différence. J'étais étrange, je m'appelle Aaron. C'est pas un nom ordinaire. J'étais donc obligé, comme un petit enfant, de supporter la différence. Autrement dit, sur les épaules d'un petit enfant, pesait tout le poids de l'histoire. Il n'était pas question que je m'en cache. Mais je portais mon histoire, pas mon histoire personnelle, mais l'histoire, tout court.
Vous avez été confronté à l'antisémitisme ordinaire?
À la porte de ce lycée, 10 mètres plus loin, à l'entrée du Luxembourg, je me suis fait tabasser une fois parce que j'étais juif, uniquement parce que j'étais juif. Ils étaient 5 ou 6. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent, mais moi je connais encore leur nom.
Vous connaissez encore leur nom?
Oui.
Vous avez quel âge?
Oh, j'avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Je me suis battu, hein. Je me suis battu, mais j'étais tout seul, j'étais donc le plus faible. Mais je me suis battu jusqu'au bout.
Et vos parents étaient croyants?
Non. Enfin, je ne sais pas bien. Je n'ai jamais su. Ils m'ont donné la fierté d'être juif parce que cela correspond à une mission.
Vos entretiens menés avec Jean-Louis Missika et filmés par la télévision par Robert Bobert. Le pape vous a parlé de son enfance et de scènes d'ailleurs liées à la guerre.
Oui, mais moi j'ai un autre point de vue, autant sur Lustiger, je voulais faire sa bio totale, autant sur le pape François, j'avais pris une autre optique qui était de le prendre à partir du moment où il était du pape, naturellement avec en fonction un peu de ses racines historiques et personnelles, mais pas trop, parce que je voulais essayer de comprendre et de faire comprendre quelle était la mutation du premier pape Jésus, du premier pape de la mondialisation et qui venait d'Amérique latine. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il l'a redit deux fois dans le livre, et j'ai essayé deux fois parce que ça n'a pas la même signification. L'événement le plus important de sa vie, c'est quand il apprend, par l'intermédiaire de ses tantes, parce qu'en fait c'était l'immigration italienne qui vivait en famille, juste à côté de leur maison, que la guerre est finie. Et on imagine très très bien ce qu'a été l'Argentine entre 43 et 45, parce que par définition, à la fois elle joue un rôle très important pour aider à l'alimentation des pays en guerre, et Angleterre et surtout les États-Unis, et ensuite c'était tous des Italiens, donc des Européens.
Ce qui vous a intéressé, en tant que sociologue amateur des réseaux, c'est de voir comment ces deux hommes tentaient de gouverner les autres hommes. Alors, vous avez été surpris par la simplicité, bien sûr, de François, par le contraste de sa simplicité avec le décor extraordinaire de Rome que vous arpentiez le reste de la journée.
Oui, parce que d'abord, quand vous rentrez au Vatican, vous entendez les cloches de Saint-Pierre et que vous arrivez à Santa Marta, qui est tout près, mais beaucoup plus silencieux. Et
la résidence où il a choisi d'habiter.
Donc, c'est-à-dire, c'est quand même 50 à 60 mètres carrés, ce qui est rien du tout, puisqu'il n'occupe pas les appartements pontificaux.
Et meublé, selon le goût de l'Église.
Pontifical de l'Église officielle, c'est-à-dire, c'est froid, ça n'a pas de caractère. On se demande comment l'Église d'ailleurs a pu être un génie de l'architecture à ce point-là, et avoir un goût aussi, comment dirais-je, modeste, pour ne pas dire autre chose. Bon. Et lui, il arrive en plus très simplement, là, sauf que c'est l'émotion quand il ouvre la porte et que c'est une soutane blanche. Mais on sent un homme déterminé, résolu, ça, rien ne m'effraie, c'est sa phrase. Et en même temps, il dit pas facile, mais il délègue et il surveille. Lustiger était beaucoup plus angoissé. Et donc, par conséquent, il pensait qu'il avait une mission qui était de redresser l'Église de France du point de vue de la formation des prêtres et du point de vue d'un certain nombre de choses. En fait, François fait confiance, parce que c'est un latino-américain beaucoup plus ouvert, c'est très important la différence entre l'Europe et l'Amérique latine, beaucoup plus ouvert, qu'il a l'habitude de ces grandes actions collectives au travers de l'Amérique latine, et finalement les nouvelles églises, tandis que Lustiger était un Européen lié à la persécution des Juifs et aux tragédies des deux guerres mondiales, et donc par conséquent dans une vision beaucoup plus pessimiste.
Je vous donne le programme du colloque Lustiger, puisqu'on ne vous l'a pas envoyé, il y sera question de un ou des réseaux autour de Lustiger. Comment trouver de l'argent pour de nouveaux projets? Comment créer une radio? Vous avez parlé de la formation des prêtres et
j'ai beaucoup discuté avec lui des Bernardins, du financement et de la construction des Bernardins et naturellement de KTO.
Mmh. Qui était aux chaînes de télé, Bernardin, et vieux collège du quartier voilà, latin du Moyen-Âge.
Radio Notre-Dame, restauré. Je disais, tu dois développer absolument Radio Notre-Dame, qu'Athéo le crée, et naturellement ton idée géniale des Bernardins.
Vous vous tutoyiez avec le cardinal du
Au début, bien sûr. Mais après, oui, c'était une relation amicale.
Vos adversaires vous dépeignent comme un homme autoritaire, proche de Jean-Paul II, et nommé à Paris pour réorganiser l'Église de France. Qu'en pensez-vous ?
Pas grand-chose. Premièrement, je ne connais pas d'adversaire.
Ah bon ?
Parce que... Non, parce que je n'accepte pas, je veux bien que quelqu'un me critique, voire de l'antipathie pour moi, mais je ne peux pas me situer face à des adversaires. Ce sont des gens qui ont d'autres idées, point, c'est tout. Sinon, je ne serais pas leur évêque. Un évêque ne peut pas avoir des adversaires. Un chef d'État, oui. Un chef de parti, oui. Quelqu'un qui s'empare de la présidence d'une société, oui, parce qu'il a des rivaux. Mais moi, je n'ai que des gens qui ont des idées variées. Je n'ai affaire qu'à des frères qui ont des idées variées, qui peuvent me critiquer à juste raison ou à tort. Dans les deux cas, ça ne change rien.
Donc il n'y a pas de rapport de force à l'intérieur de l'Église ?
Il peut y avoir des rapports de force, mais moi, je ne les vis pas de cette façon-là.
Et vous, sociologue qui campez sur l'habitude de votre discipline, vous n'êtes pas agacé devant cette affirmation répétée ? Non, non, on n'est pas une organisation comme les autres.
Écoutez, c'est vraiment l'exemple typique de la langue de bois, hein. Parce que par définition, bien sûr qu'il y a du pouvoir, des luttes de pouvoir au sein de l'Église. Que l'Église ne se résolve pas à une analyse sociopolitique ni au fonctionnement classique d'une institution, c'est évident, sinon il y aurait longtemps qu'elle aurait disparu. La simple analyse institutionnelle de l'Église prouve qu'elle n'aurait pas la capacité à tenir sur 2000 ans. Donc c'est sûr qu'on est obligé au bout d'un moment d'admettre qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la pérennité de l'Église. Mais ici et maintenant, comme hier, par définition, on peut faire une analyse sociopolitique des rapports de force au sein de l'Église. Ce qui est compliqué avec l'Église, et avec toutes les religions d'ailleurs, c'est que oui, on peut appliquer les catégories de la science politique, mais il s'agit aussi toujours d'autre chose. Et d'ailleurs, il y a énormément d'institutions dans le monde, au dehors de la religion même, où on ne peut pas uniquement... Si vous voulez, l'avantage des sciences sociales, c'est qu'elles sont très fortes pour analyser les mécanismes de pouvoir, de domination, de rapports de force. Mais leur limite... c'est qu'elle ne réalise pas toujours qu'il y a des espaces professionnels, culturels, religieux, esthétiques, artistiques, scientifiques, qui sont autre chose que le simple analyse des rapports de force. Par exemple, si vous prenez les champs scientifiques que je connais assez bien, entre nous, il y a des rapports de force, il y a de la langue de bois, il y a des rapports de pouvoir, mais il y a aussi quelque chose qui fait que quand vous êtes dans un milieu scientifique réellement, comme le CNRS par exemple, il y a une culture qui est spécifique, un mode de vie, un rapport au temps ou à l'espace, ou à la connaissance, qui n'est pas le même que si vous êtes dans la médecine ou si vous êtes dans les entreprises. Donc je trouve que le génie des sciences sociales, c'est à la fois d'expliquer qu'il y a partout du pouvoir de la domination, mais surtout qu'on ne peut pas réduire la compréhension des institutions à ça. Parce que la nature des hommes qui sont dans l'art, la science, la religion, fait et c'est ce parfum de différence qui à chaque fois est important. Et quand les sciences sociales rabattent tout sur le mécanisme du pouvoir de la domination, des rapports sociaux et de la reproduction, elles perdent l'essentiel de ce qu'il fait. Mais ceci, Lustiger était un génie dans la langue de bois, parce que quand même, il était assez connu pour son mauvais caractère. Mais ce qui m'émeuvait chez lui, c'est que c'était un angoissé de première. Il disait, j'ai jamais le temps, Denis, j'ai pas le temps. Il avait un sentiment d'urgence, et le pouvoir, il voulait l'exercer, voilà.
Même pas le temps d'aller à un concert. Alors, comme vous êtes curieux des programmations liées au colloque Lustiger, il y aura un concert spirituel à Notre-Dame de Paris.
Bien sûr.
Où seront donnés les chants tels que les pratiquaient les paroissiens de Sainte-Jeanne de Chantal quand il y était curé avant d'être évêque d'Orléans puis archevêque de Paris. Mais la communication moderne doit trouver de nouveaux chemins pour atteindre tous les cerveaux rétifs. Je vous propose d'écouter. C'est un choix de Franck Olivar qui a préparé cette émission. Cesare Bozzini. Cesare Bozzini, c'est un capucin barbu, comme il se doit, qui se fait appeler Fratello Metallo. C'est du métal chrétien. Alors, à croire le style, on pourrait penser que ça présente un dieu lointain, omnipotent, mais non, il est tendre, délicat, enfin écoutez.
Quello che noi crediamo invece è un dio che uomo è stato anche inchiodato, dato. E se è veramente dio quello che muore lì vuol dire che Dio è amore, amore. Quello che noi crediamo Dio, sempre presente, vuole soltanto vivere amore. Amore.
morendo lui per noi, indicandoci il come dell'amore. Assenza di potere, mancanza di possesso, e non si spiega, si vive.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Élection sans surprise à l'Académie française avec 29 voix sur 31. L'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, entre sous la coupole au siège laissé vacant par le décès de son ami, l'archevêque de Lyon, Albert de Courtrai.
Est-ce que ça vous rassure qu'on ait toujours gardé une place pour un cardinal, en l'occurrence pour vous, à l'Académie française ? C'est-à-dire que l'Église soit présente dans une institution laïque ?
Ça, c'est pas une institution laïque, c'est une institution française.
Alors du métal chrétien, on revient à l'Institut, aura lieu une des séances du colloque Lustiger. Dominique Volton est là, qui a publié naguère avec Jean-Louis Missika des entretiens très longs avec le cardinal Lustiger. Vous avez entendu, j'ai choisi à dessein cet extrait. Dès qu'il entend le mot « institution laïque » à propos de l'Académie française, il répond tout de suite « non, institution française ». Le mot « laïque » le fait réagir à fleur de peau.
Oui, parce que, comme beaucoup de convertis, 1905, pour lui, c'est une tragédie. Ce fut une tragédie, parce qu'on a oublié la violence de ce que furent les débats et les batailles politiques, financières, etc., de 1905, séparation d'Église et d'État. Et lui, en tant que converti, il est de formation laïque, donc par conséquent, il est tout à fait favorable à la séparation de l'Église et d'État, mais naturellement, la violence avec laquelle tout ça s'est accompagné n'a pas été pour lui quelque chose qu'il acceptait facilement. Je me souviens très bien qu'on avait été au Carme, et à plusieurs endroits, on a filmé, où il rappelait des événements tragiques de la Révolution, et ensuite de ça, de 1905. Mais il est plus sensible au caractère français, c'est-à-dire que et j'avais eu la même potentialité de discussion avec Raymond Aron, c'est-à-dire que ces juifs laïcs ou religieux, mais en tout cas qui ont une éducation laïque, ce qui est le cas de Raymond Aron comme de Jean-Marie Lustiger, en fait ils sont français de français de français. Et la bataille de la laïcité était moins importante pour lui que la bataille de l'identité nationale. Et ensuite, comme il y avait beaucoup de haine dans la séparation de 1905, ça renvoyait à un des traumatismes qu'il avait eu de Jean-Marie Lustiger comme Raymond Aron, c'est-à-dire, et c'est très important à comprendre, cette peur de la désagrégation des sociétés. Parce que, voilà, dans chaque mémoire d'un juif, il y a l'idée des pogroms et des destructions de sociétés. Qu'il soit intégré, qu'il soit, c'est Raymond Aron qui m'avait dit, Dominique, faites attention avec les juifs de cour. Mais tout ça, je le comprends très bien. C'est-à-dire qu'en définitive, quand l'intégration est récente, 2, 3 siècles, ou 50 ans, ou 60 ans, la fragilité des sociétés est encore plus visible. Et ce qui pourrait être catholique français, finalement, bon, ben là, non, c'était tragique pour mai 68, c'est pour ça qu'ils ont eu peur tous les deux et qu'ils étaient hostiles à mai 68, Aron et Lustiger. Et cette espèce de méfiance de 1905, pour une autre partie du clergé qui ne serait pas du tout opposée.
Alors, on va utiliser un vocabulaire que les sociologues aiment bien, et même les maïeuticiens. Sécularisation, c'est le mot-clé qui désigne, dans le vocabulaire sociologique, le passage d'une société religieuse à une société laïque. Écoutez ce propos assez paradoxal que vous a tenu Lustiger.
Je pense qu'il faut séculariser la politique pour qu'elle soit plus fidèle à la religion. C'est-à-dire, plus la politique sera séculière, c'est-à-dire modeste dans ses ambitions, plus elle saura respecter ce qui est la finalité transcendante de l'homme.
En fait, là-dessus, je pense qu'ils auraient une position commune, c'est-à-dire, oui à la laïcité, ce que le pape appelle une saine laïcité, mais à condition de ne pas éliminer les dimensions de la transcendance de cette laïcité. Or, le conflit qu'il y a eu en France, c'est au contraire, tout ce qui était culturel et religieux, et transcendantal, donc, était renvoyé à la sphère privée. Et la question que posait pas très bien Lustiger à l'époque, parce qu'il y a 30 ans, mais que pose très bien le pape aujourd'hui, est la suivante, c'est oui à la laïcité, parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans le monde, sauf les tragédies de l'Église catholique quand elle avait le pouvoir, ou du fondamentalisme islamiste aujourd'hui, c'est quand on fait la confusion du religieux et du politique. Donc oui, mais ce qu'essaie d'indiquer comme piste de réflexion le pape, c'est de dire oui, à condition que la laïcité ne ferme pas la porte à une présence de la transcendance, que l'on soit athée, agnostique ou croyant, parce qu'en définitive, quand on arrive à une laïcité sans aucune référence métaphysique, on risque d'avoir un retour des religions qui est encore plus violent. Et donc là, il y a un vrai débat dans la définition de la laïcité d'aujourd'hui. Certains vous disent, si jamais on ouvre un tout petit peu la porte à la transcendance, par définition, ils vont tout vouloir remanger. Et d'autres, auxquels moi j'appartiens plutôt comme quoi, c'est-à-dire, personne ne peut jamais se débarrasser de la question de la transcendance, on peut être athée, mais au moins il faut la laisser dans l'espace public de telle sorte qu'on en parle, tout en ayant d'abord posé naturellement le dépassement indépassable, si je puis dire, de la frontière spirituelle temporelle.
Si je veux faire image, il me semble que Lustiger aurait quand même rêvé encore d'un monde sphérique tenu dans la main de Dieu. Tandis que le pape vous parle, plutôt que de sphère, de polyèdre. Notre société contemporaine est éclatée comme risque de le devenir le polyèdre. Rappelez-nous ce que c'est qu'un polyèdre.
C'est la différence. Dans le cercle, tout le monde est à équidistance. C'est-à-dire que dans le polyèdre, vous avez des tas d'aspérités et c'est les liens qui sont plus importants que la surface extérieure. Donc en fait, quand il prend le mot polyèdre, pour lui, il insiste sur la dimension des liens. Lustiger, il ne faut jamais l'oublier, à différence entre les deux, c'est-à-dire que Lustiger, c'est un Européen, il y a la Shoah, mais c'est un Européen dans toutes ses traditions, ses racines, tandis que le pape François, c'est un Latino, c'est un Amérique latine, c'est un pape de la mondialisation, même s'il a des racines italiennes. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans ce dialogue implicite entre les deux, ils se connaissaient peu, parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes histoires surtout, c'est qu'en définitive, Lustiger reste lié dans une histoire européenne, ce qui n'a rien de scandaleux, ce qui a fait le génie de Jean-Paul II, tout en étant mondialiste, bien sûr, mais d'emblée, François est dans la mondialisation.
Alors, le pape vous tient un langage qu'on entend. Enfin, je veux dire, beaucoup de catholiques ne l'entendent pas en Occident, mais qu'on entend dans les médias. Les péchés de la chair sont des péchés, finalement, plus légers, pas de morale sous la ceinture. Tandis que, écoutez cet extrait, 1 minute 20, si vous voulez, de l'échange assez vif sur la morale que vous avez eue avec Lustiger il y a 30 ans.
Qu'est-ce qu'il faut rendre contraignant de par la loi? C'est en ce sens-là que je disais qu'il y avait deux définitions de la liberté. Ou bien la liberté de faire le bien, ou bien la licence de faire n'importe quoi. Autrement dit, si la loi civile, par exemple, ne pénalisait plus le meurtre.
L'analogie que vous faites entre la loi permissive en matière de sexualité et le meurtre, c'est quand même bizarre. Hein,
je prends un exemple.
C'est vous qui avez fait l'analogie.
Un exemple peut-être un peu caricatural.
Peu caricatural, je vous le concède. Mais il faut faire gros pour se faire comprendre.
Oui. Vous avez l'impression que la législation depuis une vingtaine d'années pour la contraception, en partie pour l'avortement, et de temps en temps pour l'homosexualité, font partie de la licence?
Je pense.
Carrément.
Que, je le pense, je précise ma pensée. Nous sommes en devoir de nous poser la question de savoir où va une société. Et est-ce que c'est véritablement un progrès, est-ce que c'est conforme à l'éthique, aux droits de l'homme, que de dire que quelque chose qui apparaît à la conscience morale comme mauvais est un bien? Regardez les affiches. Moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, quand vous avez des affiches de 6 mètres sur 4 qui prônent ou l'homosexualité ou la prostitution avec des numéros d'appel. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un peuple qui se dégrade. Point. Vous ramasserez les gamins, hein, les gamins qui ont été blessés dans leur chair et dans leur âme.
Point, Dominique Voltan.
Ben oui, c'est manifestement le pape François. Mais il y a toujours le même problème. Ça. C'est pas la même histoire. C'est pas seulement parce qu'il y a 30 ans de décalage entre les deux. C'est parce que François, il vient d'Amérique latine, où toutes ces questions de sexualité ont été débattues, rebattues, et transformations sociales et culturelles gigantesques. Et donc, par conséquent, il n'y a pas cette espèce de peur de la désagrégation comme il y a chez Lustiger. Mais Lustiger, il avait à la fois des aspects très laïcs, très progressistes et très conservateurs. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Et sur les mœurs, si vous voulez, ce qu'essaie d'inciter comme modification le pape, je ne sais pas s'il arrive, c'est de ce qu'il dit en dessous de la ceinture, c'est pas très grave. Dans l'hypocrisie de l'angélicalité, c'est essentiel, c'est une véritable rupture épistémologique. Parce que, comme je le dis, je lui ai posé plusieurs fois la question, expliquez-moi comment une religion d'amour n'arrête pas d'être identifiée à une religion des interdits. Alors là-dessus, il était d'accord, il n'a pas pu me dire, mais... Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'inverser, non pas qu'il n'y ait pas de question de morale, bien sûr, et de bien et de mal, mais de ne pas être obsédé par ce qui se passe sous la ceinture et d'être plus obsédé par l'hypocrisie. Et là, manifestement, je ne pense pas que le pape soit en majorité dans la curie. Parce que là, il se met par contre pour l'évolution du monde, parce que ça ne retire rien à de la question du bien et du mal, mais ça la déplace d'une telle manière qu'elle ne soit pas identifiée à des pratiques sexuelles et qu'elle soit plus renvoyée au fonctionnement des rapports humains où l'homme est pervers, tordu, hypocrite. Et il en sait quelque chose, parce que lui-même dénonce dans la curie ce qu'il appelle les maladies curiales, c'est-à-dire cette capacité invraisemblable à être dans l'hypocrisie.
Je ne sais pas si il sera entendu. En tout cas, l'incommunication entre le pape d'aujourd'hui et un certain nombre de chrétien formé à l'école de Jean-Paul II et de Lustiger, elle est très éclairée par le rapprochement de vos deux livres à 30 ans de distance.
Ah, vous avez raison, c'est un pur hasard. J'aurais pensé à 30 ans que je ferais un livre d'entretien, de dialogue et de rencontre, parce que c'est le mot rencontre qui est fort. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que la différence est réelle et qu'il faut la maintenir, voilà. Parce que l'histoire, ce qui est certain, c'est que le pape François a à la fois des positions assez libérales, assez radicales pour beaucoup de sujets, mais qu'il est obsédé par l'idée de ne pas faire rupture. Il est obsédé par deux choses. Un, il faut préserver le lien. Et tout le temps, il dit, il faut faire des ponts, il faut faire des ponts, il faut pas faire de murs. De par conséquent, ceux qui sont pas d'accord avec lui, ils n'auront pas. Première chose. Et deuxième chose, auquel il est très attentif, c'est que c'est un homme, et c'est en ça qu'il est latino. Il adore le peuple. Et donc, par conséquent, ça, c'est une différence substantielle avec Lustiger. Non pas que Lustiger aimait particulièrement les riches, mais en tout cas, il aime les milieux populaires. Et c'est fondamental comme différence.
Retour de Colombie, le pape, vous aussi, vous êtes retour de Colombie, dans l'avion, conférence de presse. C'est pas par les institutions qu'on fera la paix, mais en écoutant le peuple, ou en attendant que le peuple, popolo, vous allez entendre le mot plusieurs fois, prenne les choses en main.
Ma soltanto un processo di pace andrà avanti quando lo prende in mano il popolo. Il protagonista della pacificazione o è il popolo o si arriverà a un certo punto, ma quando un popolo prende in mano è capace di farla bene.
Le peuple, c'est fondamental pour lui parce que, entre l'Europe et l'Amérique latine, la différenciation sociale qu'on a connue, nous, en 50 ans, 100 ans en Europe, fait qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus cette place centrale qu'il a encore en Amérique latine, c'est-à-dire des gens qui sont ni pauvres ni riches, mais qui ont suffisamment de points communs culturels pour appartenir au peuple. Et je pense que dans la vision de la mondialisation, il a raison de soulever la question du peuple parce que nous, en Occident et dans les pays riches, tout simplement, on pense que et on se méfie même du peuple parce qu'il y a l'idée du populisme. Et lui, pas du tout. Il a une vision populiste. Il a été également marqué par le péronisme. C'est-à-dire, le péronisme, c'est une synthèse très intelligente, très intéressante, caricaturée en Europe, sur les rapports entre le politique, le social, le culturel.
Dites-moi, vous avez pris le goût des milieux religieux, alors. Donc, le cardinal Lustiger, il y a 30 ans, le pape maintenant.
Non, écoutez, enfin, je suis un agnostique, hein, je suis fondamentalement.
Non, mais vous avez le goût des milieux religieux?
J'ai un goût des milieux religieux parce que je les vois pas. Je les vois, ils sont à distance. Autant moi, je suis fondamentalement laïque. Quand je me rapproche d'eux, je redeviens très vite anticlérical. Donc, je peux avoir une relation idéaliste avec eux. Parce que, d'abord, c'est quand même des individus que j'ai choisis. Donc, les atomes crochus existent fondamentalement dans un choix intellectuel.
Ne pas trop les voir, je comprends que vous n'êtes pas invité au colloque Lustiger qui a lieu.
Oui, mais j'aurais pu leur dire des choses intéressantes.
Ce week-end, mais vous les avez dit ici.
Eh ben non, j'ai pas été invité, je suis au courant de rien, ainsi va la vie, si vous voulez.
Vous consultez notre site, il y a tous les détails sur le colloque. Donc, le choix de Dieu, c'était chez Fallois avec Jean-Louis Misica, et vous tout seul comme un grand face au pape. D'ailleurs, Volton tout seul parle deux fois plus que Misica plus Volton. C'est aux éditions de l'Observatoire. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec Alexandre Chenet à la technique et Audrey Ripouille à la réalisation.